Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau balado de l'agenda. Aujourd'hui, c'est un hors-série avec Alexis Goulet, aussi connu sous le nom du gars du sport sur Facebook. Abonnez-vous à sa page, il est vraiment solide. D'ailleurs, Goat, aujourd'hui, tu t'es un peu fait un petit scoop.
Scoop, j'irai pas jusqu'à dire ça parce que l'info a fuité ailleurs aussi, surtout du niveau au côté américain, là, avec ESPN, Jonathan Givony et tout ça. Et oui, écoute, la grosse nouvelle de la journée, c'est notre Québécois Karim Mané qui s'en va directement. Dans le fond, il passe du cégep à la NBA. Là. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Il a décidé de se prendre un agent puis de garder son nom dans le repêchage de cette année qui devrait avoir lieu milieu octobre. On sait que c'est déjà quelque chose qui serait passé, mais là, avec la COVID.
J'ai hâte de voir. Ils ont-tu sorti si ça serait à distance ou si elle fait un petit rassemblement? Est-ce que ça va être à Orlando aussi?
Encore, écoute, on ne sait pas. Là. C'est sûr que l'évolution de la situation est changeante de jour en jour aux États-Unis. Là. On a vu aussi qu'il y a quelques semaines, Orlando semblait la meilleure option pour la NBA pour une reprise. Puis maintenant, ben, un État qui compte entre 10 000 et 15 000 cas de COVID par jour. Fait que 2-3 semaines, c'est des choses qui peuvent changer. Si j'avais à mouiller un peu, je pense pas que c'est quelque chose qui va se faire en personne. Si oui, ça va être le strict minimum. Là. Ça va être les joueurs, ouais. les DG, la famille rapprochée.
Vraiment sobre, là. Ça sera pas comme d'habitude. Effectivement.
Là. Pas un repêchage style NFL avec des milliers de personnes dans la salle, mettons.
OK. Moi, j'ai juste une question, par contre, par rapport à ça. Son agent, est-ce que c'est une agence canadienne, québécoise, aux États-Unis? Il est avec quelle représentation?
J'ai pas d'infos là-dessus. J'ai pas d'infos là-dessus présentement. C'est quelque chose que je vais devoir faire mes recherches dans les prochains jours. Ce qu'on a su dans la nouvelle, là, c'est que, dans le fond, Karim allait rester dans le repêchage de cette année. Au lieu de choisir des universités américaines, il y avait eu plusieurs offres, notamment Michigan State, qui était l'une des plus grosses offres qu'il avait reçues. Il a reçu Marquette aussi et plusieurs choses. Mais comme je te dis, dans les textes et les communiqués qu'on a reçus, nous, ça disait juste qu'il avait décidé de signer avec un agent.
OK, bon, c'est intéressant. C'est un choix assez ambitieux. Le gars fait un pari sur lui-même. C'est intéressant de voir ça, surtout d'un gars qui n'a pas été dans le système américain,
Exact.
Dans le système québécois-canadien de développement du basket, j'ai hâte de voir si on va avoir un autre, parce que dernièrement, on a quand même quelques bons joueurs qui se sont développés ici, Lugans notamment. On a eu Andrew Wiggin dans un petit...
En Ontario, ouais.
Puis après aussi, il y a aussi Tristan Thompson, canadien de Toronto, si je me trompe pas.
R.J. Barrett.
R.J. Barrett, qui est rendu à New York à cette heure.
Exact.
Alors, lui, il a fait son collège à Duke.
Exact. Puis... Fait que, lui, il est allé avec un Big Blue, comme on dit en anglais, là, dans le jargon de la NCAA.
Il était chercher le plus d'exposure possible.
Exact. Beaucoup d'exposure. Il jouait avec Zion aussi. Fait que les médias à chaque match, c'était beaucoup fou sur lui. Là.
Il y avait Cam Reddish avec eux autres en plus. Là,
Ouais, Reddish qui aurait peut-être dû rester un an de plus. Ça, c'est la question qui se pose encore.
On en avait parlé. D'ailleurs, on ne faisait pas de balado dans ça, mais moi, je disais tout le temps, genre, il devrait rester un an de plus avec le coach, tout ça, ça l'aiderait. Puis finalement, il n'y a pas.
Il s'en sort pas si mal non plus à Atlanta. Là. Ça pourrait être vraiment pire de ce que c'est. Là.
Et Reddish, est-tu dans la bulle, là, Reddish? Est-tu dans ceux qui ont été ou il a décidé qu'il restait?
Ben, en fait, pas vraiment parce que Atlanta est éliminé. L'équipe qui n'a pas été choisie pour aller à Orlando, là, une des 8 équipes. J'avais parlé aussi il y a quelques semaines de peut-être faire une deuxième bulle à Chicago.
Ça n'avait pas été très bien accueilli.
Oh non, Steph Curry et Steve Kerr avaient décidé. pour eux, c'était les vacances et la pratique San Francisco.
Ouais.
C'est quelque chose qu'on se doit de respecter aussi. Là, jouer pour un enjeu petit comme ça avec la COVID,
ouais.
Pas nécessairement quelque chose qui est valable pour tout le monde, là. Puis, on n'a pas le choix nécessairement de respecter ça. Là.
Ouais, puis on le voit aussi que la bulle de la NBA, c'est pas une bulle si étanche que ça, dans le sens que ils font tout ce qu'ils peuvent, là, mais ils sont dans. C'est
difficile.
Ça coule. Moi, honnêtement, j'ai peur qu'ils soient obligés d'annuler.
Hein. Oui. On a vu passer il y a quelques jours la nouvelle que Rishon Holmes, un joueur des Kings de Sacramento, s'était fait commander du DoorDash. Il avait eu la bonne idée d'aller le chercher à l'extérieur. Puis...
Il s'est-tu fait te mettre à l'amende pour ça, là, pour être niaiseux de même, là, je m'excuse.
C'est pas qu'il y a eu une amende, je pense que c'est seulement une quarantaine forcée qui a été mise. Aussi, le gros problème là, ces temps-ci, je te dirais, c'est que oui, les joueurs restent sur la bulle, mais il y a beaucoup d'employés qui, eux, peuvent faire un aller et venu. C'est ça, ouais. Surtout, qui me chicote un peu, là.
Ah, aussi, il aurait pas pu faire de quoi de complètement hermétique, tu sais.
C'est ça, mais, tu sais, c'est vraiment beaucoup plus de préparation que toi et moi qui en genre sur un pod, là, c'est sûr et certain. Mais, tu sais, quand faut que tu trouves des chambres d'hôtel pour ce monde-là, faut que la nourriture, parce que ça veut dire qu'il faut qu'ils mangent trois repas par jour dans la bulle aussi.
Ouais, déjà, au début, les joueurs se plaignaient de la bouffe.
Effectivement, puis... c'est ça. On a vu que la bouffe était pas super, là. Il y en a qui comparaient ça au Fyre Festival. Fait que c'est ça, là. C'est sûr qu'il y a des joueurs aussi comme Ja Morant, puis des gens qui venaient de Flint, comme Kyle Kuzma, qui ont dit pour eux, c'est très sobre. C'est sûr que c'est pas le gros luxe, mais ça passe, là. T'sais, c'est pas...
C'est pas la fin. Les recrues, on s'entend, là, qui viennent juste de sortir du collège, il y en a beaucoup là-dedans qui sortent de la misère, ils doivent s'en foutre.
Effectivement. Pour eux, c'est pas un gros changement.
C'est plus là, les vétérans qui doivent trouver ça difficile.
Là. Ouais. Tu sais, d'après moi, c'est pas. Tout le monde doit pas avoir le même traitement non plus. Je suis pas mal sûr que LeBron James mange pas un steak de chou-fleur pour souper. Là.
Non, lui, c'est. Non, c'est ça. Je pense que c'est Isaiah Thomas, là, ancien joueur, quand il avait vu une des photos avec genre du melon d'eau puis je sais pas trop quoi d'autre sur le plateau, il a juste fait « c'est sûr que LeBron ne mange pas ça ». Et t'allais sur Instagram et tu regardais ce que LeBron a posté, puis il montrait genre des tacos genre qui avaient l'air incroyables. T'es comme « ok ». On voit tout de suite que la ligue prend plus soin de ses vedettes. Là. C'est vraiment une ligue de vedettes, la NBA. Là.
Oui, effectivement. Un autre bon exemple aussi, c'est on a vu une publication Instagram de CJ McCollum qui joue pour le Trailblazer de Portland. C'était l'anniversaire de Damian Lillard il n'y a pas si longtemps. Et il a mis des ballons devant sa chambre et sur la porte de sa chambre, il écrit « Presidential Suit ». Fait qu'il y avait la suite présidentielle, Monsieur Lillard. Là. Fait qu'on voit que c'est le statut de super vedette dans la NBA est plus important que dans d'autres ligues. Là. C'est pas... pas quelque chose qui est... C'est pas tous les joueurs qui sont traités de façon égale, maintenant.
Mais ça serait le sujet d'un balado au complet, juste le marketing des différentes ligues de sport par rapport à leurs joueurs. Il faudrait qu'on s'en fasse un jour, parce que la comparaison est tellement intéressante. Là. Regardes la NBA, c'est beaucoup sur les joueurs vedettes. La Ligue nationale, c'est beaucoup le concept d'équipe. La NFL, c'est certaines positions, positions... Le foot, ça, c'est vraiment plus... C'est juste un petit peu... C'est un peu un mix entre la NBA et la LNH, je trouve.
Tu sais, football, t'as tellement de positions et de joueurs dans une équipe que c'est sûr que ça donne un mix pour les deux. Là. On voit que les joueurs ont beaucoup plus un focus sur l'équipe, mais les médias focus sur quelques joueurs, là, sur Pat Mahomes, Tom Brady, des affaires comme ça. On voit que les joueurs reçoivent beaucoup d'exposition, mais à toutes les fois, ils ramènent ça sur l'entièreté de l'équipe.
Mais parlant de ces différentes ligues-là, à date, il y a seulement la MLS, je pense, qui est recommencée. C'est la plus petite ligue en Amérique du Nord. Mais le football ou le soccer, si vous préférez, pour les personnes qui utilisent ce mot-là, ça semble être le sport qui se relance le mieux jusqu'à maintenant à l'extérieur du continent américain, parce qu'en Europe, la Première Ligue a recommencé, la Bundesliga a recommencé, la Ligue 1 a recommencé bientôt.
La Serie A aussi.
Serie A. Effectivement, la Liga avec le Real Madrid qui a gagné aujourd'hui le championnat.
Oui. Cause d'une catastrophe pour Barcelone contre Osasuna, là, qui ont perdu 2-1.
Et... Ça, c'était... Ouais. Bon, on s'attendait pas à ça. Mais par contre, tu regardes en Amérique, la MLS, c'est une catastrophe. C'est l'hécatombe, il y a des équipes qui sont tout juste sorties, des matchs reportés à dernière seconde. C'est tellement... Tout ce qui pouvait mal aller pour la MLS, on dirait que ça va pas bien. Puis je me pose la question, puis tu me diras, Alexis, mais la MLS était déjà pas la ligue la plus en santé financièrement. T'sais, on des stades qui sont pas conformes dans certaines villes parce que faut dealer avec. Puis là, ils tombent avec ça, puis les contrats de télé vont pas être exceptionnel, tu sais, je veux dire, si t'es même pas capable de garantir que ton match va se passer, comment est-ce que tu veux aller chercher des bons contrats télé?
Écoute, la MLS avait pensé, avant de se rendre à Orlando, simplement annuler la saison. Finalement, on s'est dit, on va se faire un petit tournoi après l'idée de la NBA à Orlando aussi. Eux aussi, c'est une malchance géographique, là, tu sais.
Pensait, c'est vrai que le gouverneur de la Floride, je pense qu'il y a genre un mois, il était comme, il flexait, il se vantait, le gars, là, qu'il y avait pas
de COVID chez eux. Là, accueillir tous les sports, si vous avez besoin d'une place pour venir jouer, venez ici, et ça va très bien.
Je fais ça, ça va être long. Et
finalement, il n'y a pas juste le sport, là, il y a beaucoup de... Pendant le spring break américain, comme on appelle, là, des jeunes et des moins jeunes aussi, là, qui allaient sur les plages. Puis ouais. Finalement, la transmission communautaire s'est amorcée en Floride, puis vraiment le
c'est rendu l'épicentre, hein?
Oui, si tu me permets l'expression, c'est l'épicentre de la pandémie de COVID en Amérique présentement.
C'est vraiment, puis c'est le pire. C'est le pire addon pour ces ligues-là qui ont. On s'entend, là, la MLS.
Et se jeter dans la gueule du loup, là.
Ça, c'est qu'eux autres, ils se sont dit, bon, on va faire un investissement risqué, mais bon, ça devrait le faire, là, avec la Floride.
Ça peut payer, c'est ça l'affaire.
Ça peut payer, c'est un risque, là. Pour la NBA, c'est moins un gros risque. Ils ont les reins solides de la NBA, mais la MLS. Je me pose la question que s'il faut qu'il se retrouve à être obligé de l'annuler genre après une semaine, genre, tu sais, il regarde puis à toutes les fois ça fait ça. Combien ça va leur avoir coûté cette niaiserie-là, tu sais? C'est un pari qui là ça va avoir. Là, ça va être difficile. Déjà que j'ai l'impression que la santé financière de la Ligue, hein, c'est plus compliqué. Enfin, il faudrait voir peut-être que la FIFA va intervenir parce qu'il y a trop d'intérêt pour eux autres que ça se développe aux États-Unis. Là, le football, ça n'a pas de bon sens. Là. Il y a beaucoup trop d'argent en jeu. Là. Mais.
Ça aussi, la MLS, c'est une des ligues où est-ce que la parité salariale est la moins élevée de toutes les autres ligues. Tu as des clubs qui s'en sortent très bien, puis il y a des clubs qui ont de la misère à finir les fins de mois, là, si je peux dire ça. T'sais, j'exagère, là, c'est des équipes qui sont en parenthèse bonne santé financière. T'sais, c'est pas la crise de la COVID, puis un empêchement d'une saison qui aurait fait fermer la moitié de ces clubs-là. Mm-hmm. Mais. Avoir un relancement de qualité comme ce qu'il aurait pu avoir à Orlando, ça aurait été très, très important pour ces formations-là.
Oui, puis ça aurait été une belle publicité pour la Ligue. Ça aurait été le premier sport, puis ça aurait été des bonnes cotes d'écoute, je pense, parce que les gens sont vraiment en manque de sport. Puis ils se sont fait donner le pion complètement.
Oui, puis là, écoute, la MLB recommence dans à peu près une semaine. La NBA, ça va être dans deux, tout comme le hockey. Fait que
ouais.
C'est des sports majeurs comme ça qui vont venir reprendre les codes d'écoute. La MLS n'a pas su vraiment tirer son épingle du jeu cette fois-ci. Par contre.
Puis là, je te pose la question, par contre, la LNH, leur bulle, t'as l'impression qu'ils vont peut-être mieux s'en sortir? Parce que, tu sais, je veux dire, ils ont pris deux villes. Vraiment. Ben, je veux dire, Edmonton, c'est la ville probablement la plus sécuritaire pour le COVID. Là. Je veux dire, il n'y a rien. Là, ça fait des mois qu'ils ne se passent rien en termes de COVID là-bas. Là. Toronto, c'est plus risqué un peu. Là, celle-là, j'étais surpris. Je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être à Winnipeg ou quelque chose. Là, mais je pense que c'est le Manitoba qui avait juste dit non. Là.
C'est sûr que pour Toronto et Edmonton, c'est pas des cas qui sont aussi graves qu'Orlando, mais le risque n'est jamais de zéro. Sam, ça, tu le sais aussi bien que moi. Là. Il peut toujours arriver quelque chose. Que ça soit. T'as juste besoin d'un seul joueur qui est asymptomatique, puis un test qui bug un peu, puis tu peux partir une éclosion dans ta bulle. Là. C'est ça
Ils ont l'air d'être assez strict, par contre, hein, à date. Là, ça...
Ouais, c'est strict. C'est assez strict.
Je pense que c'est toi qui m'avais dit qu'il y avait une limite de personnel qu'ils pouvaient amener par équipe.
Ils ont un nombre.
C'est 52
de... 52. Je pense que c'est un petit peu plus que 50, là. Entre 50 et 52, j'ai pas le chiffre exact.
C'est mais pas ça, beaucoup, c'est... hein, pour ceux qui écoutent.
Incluant les joueurs, exact. Vraiment pas beaucoup.
Tout là. Le staff médical, les masseurs, les psychos, les entraîneurs, le DG, les propriétaires, ça monte vite, là, quand t'as 20 joueurs, là, avec... Puis si tu décides que tu t'amènes quelques remplaçants juste pour au cas où, là,
J'ai des chiffres présentement, là, pour Toronto, avec la COVID, il y a à peu près, il y a un petit peu moins de 2000 cas actifs présentement à Toronto, là.
Okay, on est
puis on fait Floride, une comparaison avec Orlando, vite, là.
Mm-hmm.
Orlando est à... c'est même pas écrit. C'est même pas il présentement calculé. On a 21 298 cas confirmés à Orlando. Les guérisons sont pas écrites. Et je vois la courbe devant moi présentement, là, c'est pas
joli. C'est pas une courbe plate, là.
C'est une courbe qui, jusqu'à mi-juin, était en bas du 2000. Et depuis ce temps-là, ça a monté en flèche. Là, on tourne entre 10 000 et 15 000 par jour.
Hé, hey, misère, c'est vraiment, ça s'est dégradé. S'est dégradé vraiment vite, là. Le gouverneur, il doit se dire, j'aurais peut-être dû fermer ma gueule.
Parce que. Ouais, ça...
C'est rough, là. Mais au
la
moins...
La catégorie des choses qui te reviennent dans la face rapidement, là, sur cette situation-là. Ouais.
Ah oui, ça c'est... le gars, lui, il doit se lever le matin et faire « Ouais, c'est
pas mal. » J'aurais peut-être dû tourner la langue cette fois avant de parler ce jour-là. Et ça attire quand même, veux pas, beaucoup, beaucoup de d'attention médiatique sur son état là, présentement. Parce que si la NBA est un succès, on va... lui, c'est Keith Smith qui a été le premier à amener l'idée d'Orlando.
Ah, tu l'avais sorti sur notre balado la dernière fois, genre t'étais 3 mois à l'avance, là, t'avais déjà ton corps avec Keith Smith, là, c'était fou.
Keith Smith avait fait un texte que j'avais trouvé super intéressant puis que j'avais repris pour aller au 360 qui disait Disney, pourquoi pas? Pourquoi pas Disney? Ouais. Ils ont toutes les infrastructures. C'est que la NBA a de l'argent en masse pour s'accommoder là-bas et on voit ce qu'aujourd'hui c'est fait. Là. C'est quand même bien fait. On parlera des repas et tout ça et des petits.
Mais c'était certain qu'il allait avoir un temps d'accommodation. Oui, tu peux pas accommoder. C'est quoi? Combien il y a de joueurs? Là? Ils sont 20.
Ils sont plus de 300. 4 équipes? Il y a 22 équipes puis compte 17 joueurs par équipe. Qui ont le droit plus à. Staff. Je pense que c'est 17, c'est ça. Donc, fois 22. Juste en joueurs, on est à 374.
Hey, c'est de l'infrastructure, c'est de la logistique, là.
Oui, c'est des milliers de personnes
là, qui ne partagent pas de chambre, hein, pour ceux qui se disent. Là.
Bon, ah, personne ne partage les chambres.
Personne ne partage la chambre. Fait que, puis... parce que
sinon, ça brise un peu le.
Oui, probablement, ça brise un peu le principe parce que si t'en as un qui est malade après ça, c'est sûr que t'en as deux, puis là, ça devient
effectivement plus compliqué.
Mais c'est surtout le principe de, tu sais, c'est la logistique derrière ça, la nourriture, laver le linge, tout désinfecter tout le temps. Que tout le monde respecte le confinement, les protocoles de sécurité, je veux dire, je pense qu'on réalise pas nous-mêmes en parlant, là, mais c'est un méchant casse-tête, puis honnêtement, la NBA, je me serais peut-être simplifié la vie en annulant la saison, mais en même temps, c'est tellement d'argent sacrifié que...
Ça, je sais pas dire, c'est des dizaines, voire des centaines de millions de dollars, là, je t'ai parlé, fin de son annul.
Ben, surtout avec... Il y avait vraiment, pour ceux qui ne suivent pas trop la NBA et qui sont plus des fans de hockey, ben la NBA, cette année, il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes. C'était une saison qui était attendue.
Oh oui,
il y avait une bonne parité LeBron, cette année, contrairement à plusieurs années. Il y avait plusieurs, en anglais, des narratives, des histoires.
Effectivement,
comme
des histoires.
Qui va gagner? Si telle personne gagne, ça va faire ça pour leur carrière. Puis il y avait plein de scénarios hypothétiques. Puis... tout d'un coup, ça s'est arrêté. Donc là, les gens sont comme vraiment sur leur faim. Puis là, ils veulent en savoir plus. Là. Si on annulait ça, là, c'était vraiment... Il y aurait eu beaucoup de frustration. LeBron James, ça aurait été catastrophique pour lui. Giannis, ça aurait été un autre saison gaspillée. Milwaukee aurait
capoté. Milwaukee aurait été un des grands perdants dans cette situation-là parce que les Bucks, cette année...
Ils sont forts.
Favoris, là, je dirais. Là.
Moi, personnellement, je les ai choisis pour gagner le championnat.
Ben, il y a beaucoup d'analystes américains aussi qui les choisissent. Là, pour
Toi, t'as pris les Lakers, hein?
Ouais, moi, je ne parie jamais contre LeBron James.
Ouais. Jamais. Et pourtant, il a perdu 6 fois en finale, je dis ça comme ça.
Ah. Dans une situation comme celle-là, il n'y a personne plus reposé que LeBron James en ce moment qui a manqué les séries l'année passée.
Il n'y a personne qui tient
plus en forme que lui. Pendant la quarantaine, il y avait toutes les infrastructures à la maison pour continuer de s'entraîner. Il a fait des entraînements avec ses coéquipiers. Les Lakers sont une des premières équipes à être entrées dans la bulle. Là, je te dis, cette année...
C'est sûr qu'il va être dangereux là, de ce côté-là. Mais
ma prédiction,
c'était une saison historique de Giannis. S'il faut le moindrement qui arrive, pas trop rouillé, là, ça va être incroyable.
On est à un cas positif dans la NBA de voir un remaniement complet des chances de série.
Fais juste imaginer. Faisons juste imaginer ici là, un gars comme, je sais pas, pas LeBron, parce que LeBron, c'est sûr, il doit être protégé, genre, il doit avoir 26 couches avant que tu te rendes à lui. Là. Mais faisons juste imaginer un gars, je sais pas, là, un Pat Beverly, tu sais, grand gueule.
Juste un bon joueur de soutien qui, s'il manque, ça te fait un trou dans ta formation.
C'est un Pat Beverly, un Chris Middleton. Mais tu sais, un gros morceau comme ça, ça vient juste de trouer ta saison potentiellement. Mais le pire, c'est que, mettons qu'il se fait tester, mais on va dire que c'est un gars comme Jimmy Butler, OK? Puis Jimmy Butler, cette soirée-là, c'est lui qui est sur LeBron. Imagine que cette soirée-là, il se fait tester, puis il s'en sort négatif, mais tu sais, c'est un mauvais test. Il touche à tous ces gars-là, les gars transpirent, tout ça. Boswell, le lendemain, tu peux te ramasser avec une éclosion, puis les deux équipes au complet sont finies. Puis là, ça, c'est une catastrophe. Là. T'es presque obligé d'annuler, en fait. Là, on se souvient de la réaction que la Ligue avait eue avec Rudy Gobert. Il avait tout annulé, puis tout le monde en confinement, puis on teste tout le monde.
Ça a pris deux heures, puis la Ligue était sur
pause. C'était fini. Là, ça a été impressionnant, pour vrai. La réaction de la Ligue a été incroyable. Fait que moi, de ce côté-là, je suis moins stressé. Là, on va quand même parler de hockey, parce qu'on est au Québec. Hein, fait que, on va parler de hockey, mais aussi du Canadien. Canadien qui se ramasse en série, entre guillemets.
La Ligue nationale compte ça comme des séries, ça va être des statistiques de séries éliminatoires.
Ouais, c'est... Écoute, les séries, allons-y pour les séries. Mais si le Canadien perd, ils sont encore éligibles au premier choix au total. Parce que la loterie qui s'est faite avant n'a pas donné le premier choix à personne, mais bien à une des équipes qui va être éliminée dans la ronde préliminaire dont le Canadien fait partie.
Techniquement, selon les informations qui circulaient, c'était le choix des Jets de Winnipeg.
Ouais, ça se pourrait, ouais.
Selon l'ordre, je l'ai fait confirmer. Et celui des Jets qui avait été pigé, là, c'est... Renault l'avait rapporté aussi. Ça avait été circulé aussi sur les médias américains. Là. C'était quelque chose contre 1,5 ou 3,5% de chance, puis c'était eux qui l'avaient obtenu. Mais là, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que les 8 équipes qui participeront pas aux vraies séries, entre guillemets, vont tous avoir 12,5% des chances d'obtenir Lafrenière.
Imagine Lafrenière à Montréal. Ouf.
Imagine Lafrenière à Toronto ou à Pittsburgh. Moi, c'est ça qui me fait peur.
Ah, qu'à Pittsburgh, ça serait dégueulasse pour vrai.
Une équipe qui échappe une ronde comme ça, ça s'est déjà vu. Ça peut être une équipe qui est bien plus près d'une Coupe Stanley qu'on le pense.
Ah non. Ben, j'y souhaiterais pour le jeune, c'est plus le fun. Mais...
Imagine-tu pour la parité de la Ligue. Oilers perdent en première ronde contre les Blackhawks?
Aïe, arrête, là, les Oilers, le pitié, ils l'ont gagné comme 8 fois les dernières années.
Trio, Draisaitl, McDavid, Lafrenière.
Non, il échangerait le premier choix, sûrement. Je peux pas croire.
Non, t'échanges pas, hein, Alexis Lafrenière.
Ben, je sais pas, t'es obtient un bon défenseur. Ils ont pas de def.
Non, je...
Ils ont pas de défenseur, mais ils en ont vraiment pas. Là. Ouais, c'est qui leur meilleur défenseur?
On a Darnell Nurse puis Oscar Clefbaum.
Ah oui, c'est vrai, Clefbaum, il est là.
Une bonne petite paire, mais Mike Green s'est retiré pour la COVID aussi.
Mike Green, c'est un défenseur, mais bon, hein, c'est un petit peu...
Mais c'est surtout le fait qu'un directeur général qui échange un premier choix comme ça vient de littéralement limoger le reste de sa carrière si Lafrenière devient le moindrement quelque chose. Pour moi, là,
c'est sûr.
Lafrenière fait 60 points à sa première saison, il perd sa job.
Goût, il y a un piston, claque. En même temps, t'as McDavid, il faut que tu gagnes.
Oui, je sais bien, mais on le calme. Moi, je te dis, là, on disait ça comme ça, mais je suis pas mal sûr que les Oilers vont passer à travers.
Mais non, mais dans le sens, t'as le premier choix, t'as McDavid, il faut que tu gagnes, il faut que tu montres au gars que t'es sérieux de gagner. Là, ça, tu peux pas niaiser à ramasser des premiers choix pendant encore 15 ans. Là, le gars va s'en aller.
Parce que McDavid va cette année. Ouais.
Ben là, tu sais, je veux dire, le gars, là, on le compare à Sidney Crosby, compare à Ovechkin, mais tu sais, si son équipe est pas capable de t'entourer, le gars va finir par faire bon, mais regardez, moi, je t'en ai, je puis ici.
Ouais, pour lui, c'est pas l'aspect personnel, c'est l'aspect collectif qui.
Ben lui, il veut gagner. Le gars, les trophées individuels, il y en a déjà assez pour être au temple de la renommée, là, demain matin.
Ouais.
Ben, il y a deux Lindsay déjà, je pense.
Deux
Artros, en tout cas.
Dire ça, là, Connor McDavid.
Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Il fait 100 points dans une saison avec un doigt dans le nez.
C'est sûr, il pourrait manquer un bras.
Il est tellement rapide, il déjoue tout le monde. Puis... Moi, j'ai jamais vu un gars aussi talentueux que ça, à part peut-être Ovechkin. Genre, même Crosby, là, je sais que Crosby est un excellent joueur, un des meilleurs. Mais Crosby m'a jamais. J'ai jamais eu le facteur wow avec Crosby. T'sais.
Pour l'instant, il y a deux Art Ross, deux Lindsay, un trophée Art.
C'est ça. Hey, tu penses que c'est pas assez de rentrer au Hall of Fame, ça? Moi, je pense que le gars, il rentre au temple d'un matin, même s'il se fait les deux genoux direct là, puis une amputation.
Un gars qui se défend, mais j'aime pas. J'aime pas donner la chance à un jeune qui est rendu juste à cet âge-là de dire tiens, toi, t'as déjà tes clés pour le temps de la renommée.
Ouais, c'est sûr que ça, c'est C'est sûr que ça peut mettre certaines personnes mal à l'aise, mais tu sais, je veux dire, le gars, là...
Parce que présentement, il a pas gagné de Coupe Stanley, puis je sais, j'ai jamais été un grand fan de dire de dénigrer la carrière d'un joueur parce à cause de ses accomplissements collectifs.
Non, parce que Marcel mais, Dion...
Hein. C'est ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de grands joueurs qui ont jamais remporté grand trophée, là, donc c'est sûr que... Puis c'est des joueurs qui se défendent très bien pour aller au temps de la renommée aussi, là. Mais... J'attends. Dans le cas de McDavid, là, les prochaines...
Moi, personnellement, McDavid, s'il continue au rythme où il est là, il va être un des meilleurs joueurs de l'histoire.
De tous les
honnêtement, temps. Dans le top. Et la... 6-5, là, c'est... ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai jamais vu ça. Là.
Je pense pas que la Coupe Stanley peut se sauver lui bien, bien longtemps encore.
Ben, quoi que je me dis ça avec Ovechkin, ça y a pris un méchant bout de l'avoir.
Ah, il l'a eu.
Il l'a eu, mais ça a été compliqué. Ah, ça n'a pas de bon sens. Mais ça a été compliqué. Oh, oui, des joueurs comme ça, au hockey, c'est un petit peu contrairement au basket. Un seul joueur, c'est impossible.
Effectivement.
T'sais, le basket, ça, un gars comme LeBron change la donne au complet. Mais tu sais,
Ovechkin... Oui, si LeBron décide d'en compter 50 ce soir, il en compte 50.
Oh, on l'a vu contre les Warriors. Il a failli battre une équipe avec 4 superstars à lui tout seul, ou presque. Mais au hockey, ça se fait pas. Puis on le voit avec les Canadiens. On a Carey Price. Même son année là, où ce qui était... Sur un nuage, là. Il a gagné tous les trophées. Le Canadien, on s'est fait éliminer en finale de conférence. Bon, ok, c'est vrai, il s'est fait blesser, là, mais.
Ça, je sais pour te dire, c'est-tu l'année blessé, de Chris Kreider, ça?
Il me semble que oui, c'est l'année de Chris Kreider, puis il s'est fait faire le genou. Ouais, c'est l'année de Chris Kreider, parce que l'année d'après, il était tout le temps blessé à cause de son genou.
Ouais, c'est ça, mais.
Mais bon, ok, peut-être qu'on aurait gagné la Coupe cette année-là, mais c'est un autre débat.
J'aime pas ça parler ici.
Moi non plus, mais tu sais, je veux dire, on le. On voyait quand même que, même avec Price, les limites de l'équipe étaient très claires. Là.
Oui, assurément. C'était pas une équipe qui était assez profonde pour aller chercher une Coupe Stanley.
Ce qu'il aurait vraiment fallu, genre, qu'il fasse un miracle, peut-être qu'il l'aurait fait, mais on le sait pas. Mais tu sais, je veux dire, des gars comme du talent de Price ou pas loin, comme Henrik Lundqvist, là, il n'a pas gagné de Coupe. Là. Pourtant, Dieu sait que c'est un bon gardien. Il s'est rendu en finale, mais il n'a pas gagné. Roberto Luongo, il s'est rendu en finale, pas gagné. Tu peux seulement faire jusqu'à un certain point. Quand tu es un gardien, c'est la seule position, je pense, où tu peux vraiment dire un seul joueur peut changer la donne, c'est le gardien. Mais même le gardien, il y a une limite à ce qu'il peut faire. On l'a vu avec tous les gardiens. Dominique Hašek, ça a été long. Ça a pris jusqu'à ce qu'il y ait une bonne équipe en avant de lui pour gagner. Bon, il s'est peut-être fait voler la coupe à cause du fameux but avec Brett Hull en 99, là, mais. Dominic Hašek n'a pas été capable. Carey Price, à date, n'est pas capable. Lundqvist n'a pas été capable. Luongo n'a pas été capable. Puis ça, c'est des gardiens. On ne parle pas de grands joueurs. Genre Marcel Dion n'a pas été capable. Des attaquants qui n'ont pas eu de coupe, il y en a eu plein. Des défenseurs aussi. Tu sais, je veux dire... C'est de plus en plus commun et c'est normal. Non, c'est sûr que équipes maintenant.
L'équipe, c'est ça. Il n'y a plus 6 équipes comme au début.
Non, ouais, ça explique peut-être pourquoi le Canadien gagne moins.
Bon... Écoute, Canadien, là, tu voulais en parler, c'est le futur est très, très brillant pour cette équipe-là.
Toi, t'es optimiste avec le Canadien?
Très, très optimiste.
Moi, écoute, à toutes les fois, par contre, c'est vrai que la situation a changé, mais à toutes les fois qu'on se dit...
On n'a jamais eu un pool de recrues aussi
talentueux. Ouais, mais on a tellement de la misère à les développer.
Ouais, Sly est plus là. On n'a plus Sylvain Lefebvre
en bas. C'est sûr, c'est certain. Mais je reste tout le temps un petit peu nerveux avec ça, parce que le Canadien a une historique. Le développement de joueurs, on a de la difficulté, surtout les attaquants. Les défenseurs, pas si pire, mais les attaquants, mon Dieu, on a de la misère. Mais c'est vrai que Joël Bouchard, c'est quand même beaucoup.
Dominique Bouchard.
Oui.
C'est toutes des additions qui ont l'expérience avec des jeunes et qui sont très respectés dans leur milieu. Là.
Ouais. Puis, on entendait beaucoup de gens dire qu'il fallait mettre Bergevin dehors, puis tout ça, mais je connais ton opinion là-dessus, puis je suis d'accord avec toi que ça donne absolument rien. Toi, t'es Jeff Molson, je pense que tu joues la carte de la longévité.
Marc Bergevin, c'est un de mes directeurs généraux préférés de la Ligue nationale de hockey. Ce gars-là peut te faire de trouver des manières de faire des échanges qui sont payants des années plus tard. Pensez à l'échange d'Andrew Shaw, celui de Philippe Dano.
Pat Charity.
Patrick.
C'est rare qu'un DG réussisse à aller chercher une valeur équivalente ou supérieure pour un gros joueur comme ça.
Chignac aussi, on est allé chercher Domi.
Ouais, Domi, ouais, et... malheureusement, peut-être qu'on le verra pas là, à cause de la COVID.
D'après moi, avec le diabète, Max Domi, c'est un des joueurs qui va se retirer. Puis j'ai absolument rien contre ça. C'est
mais non, mais non, mais non, c'est normal. Là, je veux dire, le gars, il a fait avoir sa vie pour ça. Parce que oui, le diabète est une condition qui favorise la mort.
Quand il y a un cas de COVID confirmé présentement, là, on pensait que c'était 3. Finalement, il y a eu 2 faux positifs. Fait que c'est à 1.
Est-ce qu'on sait c'est qui?
J'ai eu des infos là-dessus. Dans les 2 derniers jours, les seuls 2 joueurs qui n'ont pas patiné avec le Canadien pour l'instant, c'est Brett Kulak et Xavier Ouellet. Je vous laisse faire les liens dans votre tête. Je ne dis pas que c'est un des deux-là, assurément.
Mais ça, si on fait un ça plus regarde, un, mettons.
Si on fait un plus un, probablement un de ces deux joueurs-là qui a été atteint. Encore là, la Ligue nationale est très, très stricte. C'est une des ligues les plus strictes pour les révélations de cas de COVID. Là. Les équipes tiennent ça super bien caché. Puis en plus, c'est le Canadien. Là.
Ouais, déjà que le Canadien, c'est très hermétique.
Ces informations-là. Puis même pour les gens qui sont super bien pluggés dans le milieu. Là.
Parce que là, si je me trompe pas, puis corrige-moi si je me trompe, mais de ce que j'avais lu, ce n'est même pas les équipes annonce les blessés et les absents pour les phases 3 et 4. Ouais. Ça, tout passe par la Ligue. La Ligue a vraiment décidé que ça allait, qu'elle allait contrôler complètement le flot d'informations. Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort?
Parce que si on se ramasse, vous vous dites probablement que pour un poignet cassé ou une entorse à la cheville, c'est pas bien grave. Mais c'est quand vient le temps d'annoncer des cas de COVID que là, on veut pas que les équipes fassent à leur tête en décidant qu'est-ce qu'ils disent ou pas. Et on veut que tout le monde parte sur un pied d'égalité. C'est pour ça que c'est la Ligue nationale qui s'occupe de ça. Puis encore là, c'est pas quelque chose que je vois comme un problème. Là.
Non, effectivement, c'est juste... Je pense qu'en même temps, il faut se rappeler qu'à la fin de la journée, ces sports-là, c'est du business. Il faut que tu protèges ton investissement.
Oui.
Et ces joueurs-là représentent des gros investissements pour les propriétaires. Par contre... Juste un truc, good. Le cap salarial. Bon, le hockey, je sais que ça a été. Les négociations ont été surprenamment vraiment rapides et ça a l'air d'être vraiment bien allé. Ils ont signé quoi, 6 ans?
Une extension de 6 ans, je crois, oui, qui nous amène jusqu'en 2027 parce qu'il restait 1 an à la convention. Et je vais te confirmer ça, là. La CBA, quand on dit en
anglais. Pendant que tu cherches ça, je vais juste spécifier pourquoi j'en parle, parce que, bon, à toutes les fois qu'il y avait une fin du contrat, les dernières fois, ça finissait en lock-out ou ça finissait en grève, tu sais, c'était compliqué, donc on avait un peu peur, là, mais finalement, ça s'est bien réglé. Surtout quand tu compares avec la MLB de l'autre bord, là. 2028, tu dis?
2026.
2026, excusez, mal entendu. 2026. On n'a pas de conflit. Ça veut dire que Gary Bettman va être parti d'ici à la prochaine négociation.
Probablement. Puis Bill Daly aussi.
Après moi, c'est un visage complètement neuf.
Ça va être c'est la dernière négociation entre ces deux hommes-là, là, d'après moi.
Ça va être un.
Gary Bettman, dernière négociation, j'ai absolument rien à dire là-dessus. Il y a eu des ententes comme quoi les joueurs allaient retourner probablement aux Jeux Olympiques.
Ah, ça, je suis content, Marc.
En 2022-2026. Quelque chose qui avait...
Je suis aussi doit être content.
les Russes doivent être contents là, de pouvoir défendre leur pays. Puis c'est tout le temps quelque chose qui est super intéressant à regarder. Là. Ça amène du différent. Les joueurs, plusieurs vedettes qui se mettent à jouer ensemble. Moi, ça et le championnat mondial junior dans le temps des fêtes, là, c'est probablement mes périodes de hockey préférées avec les finales. Puis,
Mais ça, c'est le rituel, là, le championnat de Nation. C'est là que tu vois le futur de la Ligue à toutes les fois. Moi, je me souviens d'une année en particulier, l'année avec Carey Price, Piqué Subban, avec la fusillade, je pense, en demi-finale contre les États-Unis ou contre la Russie. C'est contre les États-Unis. Puis Price fait l'arrêt contre Patrick Kane. Tu sais, c'est des affaires de folie comme ça. Tu sais, c'est tout le talent. Ouais, Jonathan Taze, ce gang-là. C'est fou, Red. Là, tu vois l'avenir de la Ligue sans trop le savoir à ce moment-là. Tu te doutes un peu. Mais il y a toujours des surprises. Genre Angelo Esposito, tout le monde se dit « Ah, il va être écœurant. » Il n'a même pas joué un match dans la Ligue. Et pourtant, ouais. Il a dominé. Là. Très gentil.
Ouais, il était bon, Esposito.
Oui, il était super bon.
Imagine-tu, on ne signe pas la CBA, puis le... Un petit peu après 2000, là. Les joueurs vont plus aux Olympiques. On n'a jamais le Golden Goal de Crosby en 2010.
Ouf. Ouais.
Ces événements-là n'existent pas. Moi, mon père a eu la chance d'annoncer ce but-là à Vancouver, puis il me dit que c'est un de ses moments favoris de sa carrière.
Ah, c'est
un des moments favoris de beaucoup d'amateurs de sport canadiens. Là. Il y en a qui classifient ça comme le moment de la décennie avec le championnat des Raptors l'an dernier. Là, puis c'est des moments que tu te rappelles pendant toute ta vie. Là.
Le Golden Goal de Crosby, honnêtement, moi, je me souviens très bien de où est-ce que j'étais quand on l'a vu. C'est presque tout le monde qui l'a vu en temps réel s'en souvient où ce qu'il était. Mais c'est surtout... Tout était parfait dans le sens que tu pouvais pas demander mieux. Là. Le Crosby, la nouvelle vedette, montante, ça faisait déjà 5 ans qu'il était là, mais c'était la nouveauté. On le comparait à Gretzky, pis tout ça, c'était la star du Canada. Qui lui fait la passe? Joe McGinley, l'ancien, le vieux loup. Il marque.
Les choses sont bien faites dans le sport.
Tu te dis, c'est quasiment arrangé que le gars des vues, mais même si t'arrangeais ça, tu serais pas capable que ça soit parfait de même.
Bien fait le sport quand même.
Ah, il y a des beaux moments avec le sport, c'est l'avantage. C'est pour ça que je pense que oui, c'est dangereux que ce que les ligues font. Puis oui, à la fin de la journée, c'est pour l'argent. On le sait tous, ils font pas ça pour nous.
Oui, à la fin, on se le cachera même pas.
Ils font pas pour nous faire plaisir.
C'est que les pièces à la fin qui sont importants.
Mais je trouve que c'est important que les ligues essaient, justement parce que les gens en ont besoin. Le sport, c'est quelque chose qui est positif pour la société. Puis on le voit, écoute... les gens, c'est pas la même chose. Là. On le sent, surtout au Québec, là, que le Canadien n'est pas là, on le sent, l'espace médiatique est terriblement...
Il est vide, puis ça parle de COVID à venir, puis...
Ah oui, ben c'est vrai, là, tout l'espace médiatique occupé par le Canadien est remplacé par le COVID, puis on le sent que les gens sont écœurés d'en entendre parler. Mais, tu sais, le Canadien, les gens réalisent peut-être pas, là, mais ouais, on parle... Quand le Canadien signe un gars de quatrième trio qui jouera peut-être pas... On en parle pendant une semaine. Il n'y a aucune équipe dans la Ligue qui a autant... À part peut-être Toronto, qui a autant d'attention médiatique. C'est vraiment... Ouais,
Toronto, c'est qu'ils ont plusieurs sports. Là. Toronto ont les Blue Jays, Toronto ont les Raptors. Fait que ça,
ouais, puis leurs médias sont beaucoup plus des potins aussi. T'sais, leurs médias sportifs, c'est beaucoup plus genre ils vont chercher des poux sur leurs joueurs.
Du débat et des questions et du débat.
Honnêtement, je voudrais pas jouer à Toronto. En tout cas.
Je sais pas si tu veux jouer à Toronto quand t'es bon. Quand t'es pas un troubleur. Quand t'es pas un fêteur trop, tu fais pas de trouble en dehors de la glace, ça te dérange pas de jouer à Toronto.
Ouais, si c'est sûr. Trouble,
ça... Inquiète-toi pas, tout le monde va se ramasser par le savoir.
Ouais, c'est sûr. Okay, imagine Mike Ribeiro à Toronto. Ouf! Mike Ribeiro dans son prime à Toronto, il va s'arrêter. Il se serait
arrêter vendu des journaux. Chose, hein?
Il se serait vendu des journaux. Mais honnêtement, à part ça... Dernier sport qui nous reste à parler, la NFL. Là, la NFL, ils doivent commencer à trouver le temps long en tabarnouche. Parce qu'eux autres, ils s'étaient dit, on commence tard, ça va être correct, ça va être passé. Ouf.
Le pire ennemi de la NFL, c'est le temps présentement. Ils trouvent qu'il va vite. Ça va vite parce qu'eux pensaient qu'il y avait un coussin assez grand pour commencer la saison à jour. Commencer la saison de façon normale. Avec le voyagement. Toutes les équipes, oui, sans partisans, mais avec les voyagements entre les villes. Puis là, la NFL n'aura peut-être même pas le choix de faire un plan, soit pour
reporter. Peux-tu vraiment faire ça?
Je sais pas, parce que ça prend tellement de place jouer au football.
Ben, il y a ça, mais c'est surtout qu'ils sont 53 joueurs par équipe.
C'est ça aussi.
Ils sont 32 équipes.
Il va falloir que tu comptes une centaine de personnes par équipe, au moins.
Hey, c'est fou, raide, puis ils sont 32 équipes. Là, fait. T'es un minimum, genre, hey, je veux dire, il y aurait...
Mettons qu'on y va conservateur.
Il y aurait facilement là, genre 4000 personnes juste en accommodation.
Avec, mettons 125 personnes par club fois 32. Juste là, t'es à 4000 personnes.
Il y a au moins, dans le cas là, où ce qui se limite, là, hein, puis c'est vraiment genre on rationne le staff, là, 4000 personnes. Puis il faut que tu trouves un terrain là, qui est capable de supporter beaucoup de parties sans trop s'user. Ça veut dire que ça prendrait vraiment du synthétique qui se ferait refaire à presque toutes les semaines.
Les équipes puissent pratiquer en même temps. Fait qu'il faut que tu trouves plusieurs terrains.
Faut que tu trouves plus... Ouais, c'est ça, faut que tu trouves plusieurs terrains.
Ce monde-là trouve le moyen ce monde-là trouve le moyen de jamais se rencontrer sauf pendant les matchs.
Ah, c'est impossible. Je pense que la NFL, ils n'ont pas le choix d'annuler.
Moi non plus, je pense pas que c'est possible.
Tu sais, la NBA, à la limite, ils sont quoi? Ils sont 16, 17 joueurs par équipe. Là. La NHL sont.
Ouais, mais maintenant, avec les... Je pense que c'est. Mais la NBA, je pense que normalement, un roster normal, c'est une trezaine de joueurs entre 13 et 15. Je pense qu'ils ont droit à 2.
Ouais. Mais la NFL, sont 53 normalement. Mais là, t'as pas le choix en amenant en plus en extra. Je viens juste de penser à ça. Oui. Parce que s'il y a des blessés.
Des blessés.
Fait que là, quoi, il faudrait qu'ils étendent l'effectif à peut-être 60, 65.
Puis, tu sais, tu pas nécessairement non plus.
Mais en plus, ils ont le practice squad, Gapel.
Ouais, parce qu'il faut que tu te pratiques, puis tu pratiques jamais contre ta défense. Là. L'attaque pratique contre un squad.
Ça se peut pas. Honnêtement, les propriétaires de la NFL doivent vraiment être stressés en ce moment. Parce que, tu sais, nous autres, on vient juste, on pense à ça, puis on est comme, ça se fait pas, c'est impossible. Les gars doivent capoter, là.
Hey, écoute,
en plus, qu'ils ont un gros scandale qui s'en vient.
Avec les Redskins.
Ben, les Redskins, ils vont changer de nom. Ils vont changer de nom ou quoi demain?
Il n'y a pas de nom qui est. Je sais que les procédures sont entamées.
OK.
Et c'est quelque chose que. Les Eskimos aussi d'Edmonton, là, j'ai vu ça passer il y a quelques minutes, veulent aussi changer de nom.
OK.
Il y a plusieurs équipes, là, tu sais. Les Warriors de Golden State, peut-être que ça va être quelque chose qui va changer de nom.
Honnêtement, c'est quand même.
C'est, des fois, je me dis, là, j'aime pas ça parce que c'est un terrain très glissant, puis on fait ça pour les bonnes raisons, mais des fois, peut-être que trop, c'est comme pas assez aussi.
Ouais, moi, j'ai peur qu'ils essayent d'enlever Blackhawks. Là.
Un des plus beaux gilets. Un des plus beaux gilets, ouais, c'est ce qu'il y a pour dire.
C'est comme, non, enlevez-moi pas ça, s'il vous plaît, là.
Heureusement, c'est pas un sujet que j'aime beaucoup parler parce que je suis pas quelqu'un qui peut mettre à la place de ce que ces gens-là ont vécu, de ce que ça veut dire pour eux, ces logos-là. Fait que j'aime pas ça vraiment en jaser parce que je suis trop un outsider. J'ai pas vécu ça non plus. Mais strictement pour le côté technique de la chose, c'est beaucoup de trouble pour les équipes de changer de nom parce que tu penses que les chandails que ça vend, tu changes de nom, faut que tu changes le turf, faut que tu changes toutes tes cartes, il faut que tu changes ton équipement complet. Bon, hein? Non, c'est pas quelque chose qui est super simple, mais les Redskins, en plus, ces temps-ci, ont un deuxième problème avec ce qui est sorti aujourd'hui. Des grosses accusations d'agression sexuelle sur plus qu'une douzaine de femmes. Là, pour c'est un des,
ça
un des
membres haut,
influents.
Là.
Ça remonte haut, oh, c'est ça, ça remonte haut. Là. C'est un des membres influents des Redskins qui est dans l'eau chaude présentement. Ça va pas super moi, bien à Washington.
J'avais lu sur Twitter... c'est sûr que tu as vu ça, mais moi j'avais lu, il y en a qui disaient que c'était la plus grosse histoire sportive des dernières années, genre de loin. Là, ça allait exploser. Là.
Oui, ça va. C'est ça. C'est
en ce moment, apparemment, là, que ça se peut que le propriétaire des Redskins ou du prochain nom se fasse littéralement sacré dehors, comme Donald Sterling avec les Clippers.
Ouais, c'est ça. Je suis sur Twitter en ce moment, puis Washington Scandal, c'est quelque chose qui trend en ce moment.
Ah, c'est certain, les gens attendent. C'est quand est-ce qu'il sort l'article?
J'ai quelques articles présentement, là, Sporting News et tout ça.
Mais c'est le Washington Post qui va sortir ça, là, mais.
Dans le fond, on parle de l'organisation de Dan Snyder. Là, le Washington Post va sortir probablement un style de bureau d'enquête, là, quelque chose qui enquête depuis super longtemps, puis ils vont probablement défaire les magouilles de tout ça. Là.
Ça fait longtemps que ça filtre, par contre, ça, le truc, le scandale sexuel. Je me souviens qu'il y avait eu des plaintes par des meneuses de claque des Redskins il y a
deux ans. Ça remonte à 1999, là, Snyder dans l'entourage des Redskins. Fait que...
Ça peut faire longtemps, maudit. Par contre, ce qui peut vraiment faire mal à la NFL, pour ceux qui se posent la question, pourquoi on en parle autant en détail. C'est que si ça remonte jusqu'au propriétaire des Redskins, ça fait déjà mal. Mais imaginez si, et c'est pas impossible, il y a quelqu'un clairement qui s'est plaint des comportements de Snyder à quelqu'un à l'extérieur de l'organisation. Faites juste imaginer si on découvre dans ce dossier-là que Roger Goodell ou bien quelqu'un haut placé dans l'organisation de la NFL a volontairement fermé les yeux là-dessus.
Ouais,
là, on se retrouve avec un cas explosif que genre la NFL va vouloir disparaître. Là. Parce que ça, en plus, en ce moment, avec la vague de MeToo de l'année passée, ici au Québec, on en a eu en ce moment, mais aux États-Unis, c'était l'an passé, il y a 2 ans, avec le ça va repartir encore.
Oui.
Ils ont le problème avec Kaepernick, le Black Lives Matter, tout ça, ça va repartir encore.
Tu sais à quel point j'ai aucun problème que ce monde-là se fasse
découvrir. Mais non, j'ai aucun problème non plus, mais je veux dire, dans le sens, ça va être pour les observateurs là, qui aiment ça regarder ouais. quelque chose exploser, là, vous allez être servi parce que.
J'adore ça quand ce monde-là se remet à la porte. Là.
Ah, ça, ça va être vraiment un gros ménage. Là.
Ouais. C'est mon
puis surtout bonheur, que le Washington Post, ceux qui sont pas au courant, ça, ils peuvent pas se faire intimider. Là. C'est Jeff Bezos, le propriétaire de ça.
L'article est sorti d'ailleurs du Washington Post. On appelle ça From Dream Job to Nightmare. C'est ça le titre de l'article. Faut que tu sois abonné au Washington Post pour le lire intégralement, mais ça parle des meneuses de claque et de ce qu'elles vivent dans les dernières décennies. Là.
Oh boy, ça va être explosif.
Ça fait déjà des flammes. C'est numéro 1 sur Twitter présentement.
Oh boy. Puis c'est faut que tu payes pour. Imagine s'ils attendent, ils vont probablement le mettre gratuitement après un certain temps. Effectivement, c'est quelque chose
qui... La première tendance, même au Canada présentement, c'est Dan Snyder.
Hey boy.
Une tendance, c'est l'article. La troisième tendance, c'est le Lady Bing parce que les nominations dans la Ligue nationale sont sorties aujourd'hui. Et les deux prochains, c'est encore lié aux Redskins.
Oh boy, la NFL a tellement un gros PR à faire là-dessus. Là. Gestion de crise, les gars sont en sueur en ce moment.
Ouais, ben écoute, hein, c'est. Mettons que la NFL a plusieurs choses à gérer dans les prochaines semaines. Là. Que ce soit tant au niveau de la COVID ou de contrôler les répercussions.
Il était déjà dans l'eau chaude à cause de Colin Kaepernick puis tout ça. Ouais, puis ça faisait des années que ça gossait. Puis tout ça.
Quelques semaines que la NFL, là, c'est pas. Et on a quand même des beaux petits bijoux. Là. On a eu l'extension de Pat Mahomes dans 503 millions.
Pat Mahomes, 503 millions, ça va être le plus gros contrat de l'histoire du sport, pour vrai.
L'histoire du sport, peut-être pas. Dans la NFL, fort probablement. Là, surtout
ça, c'est sûr. Là, si on l'avait vu, c'était le plus gros. Là.
C'est quelque chose qui est connu. Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est mérité, oui. Autant que ça, je sais pas. Oui, le kid m'impressionne vraiment beaucoup. Je suis pas le plus gros fan de la NFL, mais il me donne le goût de regarder chacun de ses matchs. Ce gars-là fait avec le ballon dans les mains. C'est le
meilleur bras que j'ai vu
de ma vie. Ce gars-là fait avec le ballon dans les mains, si j'ai jamais vu ça avant. Jamais.
C'est le meilleur bras que j'ai vu de ma vie. En termes de. Puis je dis ça dans le sens, c'est pas nécessairement parce que c'est le plus puissant.
Le plus puissant, non, c'est pas le plus puissant.
Tu sais, je veux dire, il y en a eu des gars avec un gros bras avant dans NFL, là, mais lui, c'est parce qu'il est capable de. Premièrement, la façon qu'il lance le ballon, genre, on dirait qu'il se crinque même pas, genre. Puis il lance
en 60 mètres. La façon qu'il est placé, il peut placer le ballon où il veut sur le terrain.
Des fois, il fait des passes, il regarde même pas le gars.
Son footwork soit un petit peu en retard, un petit peu en avance, qu'il soit chambranlant un peu, qu'il ait la pression qui s'amène de son angle mort ou devant lui, le ballon va se
rendre. Il court, il est à l'opposé, il fait un lancer en 45, genre à travers son corps. Ouais. Toute la pire affaire que tu peux faire, pas de problème. Le seul gars que j'ai vu qui s'en rapprochait, c'était Aaron Rodgers à une certaine époque, mais même lui, c'était pas aussi abusé. Là, Mahomes, on dirait vraiment genre le gars que tu te fais dans Madden, genre, puis que tu te mets tous les paramètres à la difficulté la plus basse là, pour que tu puisses abuser. C'est lui, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, j'ai jamais vu ça. On dirait que c'est facile pour lui, là. C'est comme si le jeu était ralenti. Là. Mais, puis pourtant, il y a des bons corps arrière dans la ligue, là, puis tu le vois, il est au-dessus des autres de loin. Là. Il va, puis je vais dire comme Shannon Sharp avait dit à First Take. Il n'y a pas First Take à Undisputed. First Take, c'est Stephen A. Smith. À chaque année, maintenant qu'il a signé ce contrat-là, il va toujours partir dans la conversation du MVP comme favori à chaque année. S'il ne se blesse pas, là, ça va être un peu comme Peyton Manning. À tous les ans, c'est comme, bon, ben, c'est Peyton qui va le gagner. C'est à Peyton de le perdre. C'est ça pour Mahomes, pour vrai. Puis, honnêtement, je ne veux pas manquer de respect à Peyton. C'est tout un joueur, là. Je pense que Mahomes est clairement meilleur que Peyton. Puis je vais m'expliquer là, avant que les fans de Peyton me sautent dessus. Là. Peyton, là, ça y a tout pris pour commencer à gagner en série. Là. C'était dégueulasse. Là. C'est le gars qui a perdu le plus souvent en première ronde.
Mahomes qui enlève toute la pression des épaules en remportant un championnat à cet âge.
Oui, mais même avant, genre, tu voyais que ça le dérangeait pas. Là. C'était pas le gars comme. Manning, tu voyais son niveau de jeu baisser en série. Là. Mahomes, là, il s'en sacrait. Là. C'était comme si rien n'était. Là. Il a roulé sur tout le monde. Hey, la défensive de San Francisco, là.
C'est solide.
C'est pas une blague, là. Puis ils ont complètement abusé. Quand il a décidé que la game était finie. Là. Il pouvait rien faire. Il y avait une avance de 10 points, les gars. Rien. Ils n'ont rien fait.
Mahomes a mis la sixième vitesse, puis...
C'était fini. C'est même pas la sixième vitesse. C'est vraiment, là, Mahomes, quand il commence, là, il y a une vitesse de plus que tout le monde. T'es comme... Il y a ces joueurs-là, il en existe genre un par génération, par sport, là, où que quand ils se mettent vraiment en mode, genre, qu'ils dominent, là, personne ne peut les toucher. Michael Jordan était comme ça. Wayne Gretzky était comme ça. Mario Lemieux était comme ça. Tom Brady était comme ça. Peut-être plus à cette heure, mais il l'était. Pat Mahomes, tant qu'à moi, c'est un de ces gars-là. Quand le gars décide que la game est terminée, la game est terminée. Tu ne peux rien faire. Parce que comment est-ce que tu veux défendre le gars? Le gars est mobile. Le gars peut lancer de n'importe où. Le gars lance vite. Le gars peut lancer en profondeur, proche de lui, sans même regarder le gars à qui il passe des fois. Le gars est jamais, jamais pressé. Comme même si t'as trois gars qui arrivent sur lui, le gars est très calme. Ça le dérange pas. Il peut sortir de plein de situations. La comparaison que je fais souvent, parce que je le compare avec un autre bras excessivement talentueux, Brett Favre. Moi, tant qu'à moi, c'est le seul gars qui avait un bras aussi incroyable. Sauf que Brett Favre n'avait pas la mobilité de Pat Mahomes. Mais c'est surtout que Brett Favre n'avait pas le QI pour le football que Pat Mahomes. Oh, Brett Favre, là, c'était le gars genre... Ah, il y a deux défenseurs sur mon gars, mais je vais quand même la slicer parce que je sais que je suis capable. Bon, c'est pas pour rien qu'il a fini avec le plus d'interceptions en carrière.
C'est juste pour te dire.
Ça marchait pas tout le temps. Et des fois, c'était dans des moments excessivement douloureux. Moi, en tant que fan des Vikings, je me souviens encore de la maudite interception en finale de conférence de la NFC. Ça fait mal encore. Ça fait mal encore. Je suis sûr qu'on aurait gagné s'il n'avait pas fait ça. Je pense qu'on gagnait le Super Bowl cette année-là, pour vrai. Ça fait mal. Ceux qui sont fans des Vikings comprendront ma douleur. C'est un club maudit. Ils me font boire. Mais Pat Mahomes a le talent de Brett Favre. Je pense que tu es d'accord avec moi pour le bras. Là. C'est facilement le même calibre. Sauf que le gars, il lance pas d'interception. C'est fou.
Ça, c'est parce qu'il y a un solide...
C'est Pat comme Mahomes, un gunslinger, mais qui fait pas d'erreur.
Il y a le club pour l'appuyer aussi là-dedans. Là.
Ouais, puis il y a un excellent coach aussi. Là.
Un excellent entraîneur, oui. Ça,
enfin, qui a gagné son Super Bowl.
Ça, c'est Andy Reid, là, c'est un de mes entraîneurs favoris dans la NFL. Il a réussi à adapter un système de jeu pour Pat Mahomes en pas longtemps. C'est un système de jeu qui, pour l'instant, on voit qu'il marche, puis il a pas l'air d'avoir de five, vraiment, là.
Non, mais honnêtement, le directeur général des Chiefs, il faut lui donner crédit parce que quand il a échangé Alex Smith, là, le club fonctionnait très bien. Là. C'était un bon club déjà. Là.
Oui.
Quand il a échangé Alex Smith pour Pat Mahomes, là, t'sais, le gars, on savait qu'il allait être bon, mais il n'a pas été choisi premier au repêchage total, puis tout le monde savait que ça allait être le talent générationnel. Là.
Style de Joe Burrow, mettons. Là.
Ouais, puis Joe Burrow, moi je suis pas convaincu qu'il va être si bon que ça. Moi je pense plus à Trevor Lawrence.
J'ai hâte de voir Trevor Lawrence.
Moi c'est plus Trevor Lawrence que j'ai hâte de voir, puis que j'ai l'impression qu'il va pouvoir vraiment challenger Pat Mahomes. Mais c'est pas ce genre de gars-là. Mahomes, c'est un peu comme Rodgers, il a été pris plus tard, il a attendu un an en arrière d'un bon corps arrière, il a appris le métier, puis il est sorti, puis pouf!
Cette année-là, on l'oublie souvent, là.
Fait que c'est vraiment pas la recrue genre normale, Mahomes, non seulement parce qu'il est beaucoup plus talentueux que toutes les autres recrues. Là. Déjà, il est arrivé, il était prêt. Là. Mais
il était
prêt, là. T'sais, s'il n'y avait pas eu Smith, là, il aurait pu jouer en masse.
Oui, mais cette année-là, on la sous-estime beaucoup parce que
des choses que tu vois sur les lignes de côté que tu vois pas pendant que tu joues.
C'est certain, puis te pratiquer contre une vraie défense de la NFL, c'est pas la même chose. Puis je suis convaincu qu'Andy Reid est le coordonnateur offensif, qui est un des très très bons, devait très certainement prendre un café très très souvent avec Pat Mahomes.
Oh, ça devait être des bons amis.
Ça devait être des bons amis. Ils devaient regarder des tapes ensemble. Ils devaient clairement discuter. Toi, qu'est-ce que tu préfères? T'aimes mieux tirer vers l'extérieur, l'intérieur, profondeur? Ton bras droit, quel angle que tu t'es? Pour vraiment commencer à préparer un livre de jeu pour que quand que ce serait son tour, tout allait être parfaitement prêt pour lui. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard. T'sais, la NFL, c'est une ligue que tout le monde le sait, c'est la stratégie, c'est la préparation. C'est la ligue, probablement, qui a le plus de préparation avant chaque partie.
Si t'es les Patriots, tu peux même filmer la préparation des autres, écoute.
Ouf. OK, juste pour ça, là, moi, je pense que je vais conclure le balado là-dessus, parce que tu peux pas finir sur mieux que ça, sérieusement. Là. Ah, mais on va peut-être juste glisser un mot sur Tom Brady avec les Buccaneers.
Oui, ben oui, certain.
Parce que...
Écoute, Gronk revient.
Gronk revient aussi. C'est ça, c'est comme...
J'étais sûr que Edelman allait y passer puis se ramasser là par un miracle aussi. Puis je me suis dit, bon, allez, ça repart.
Mais finalement, non, Edelman a décidé qu'il restait à
Boston. Et les Buccaneers passent d'une équipe moyenne à une équipe qui est contender pour le Super Bowl. Juste
tout
avec
dépend ses... de comment est-ce que Tom Brady performe à 42 ans.
Ouais, mais c'est que les Buccaneers ont un excellent corps de receveurs.
Ils ont un bon coach, Bruce Arians. Puis Bruce Arians, en plus, il est connu pour faire jouer ses corps arrière vraiment longtemps parce que Carson Palmer avait quelque chose comme 39-40 ans, puis il faisait encore des saisons de débiles avec Bruce Arians.
Oh oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Tampa Bay. Là. Si on peut avoir de la NFL cette année, là.
Ouais, parce que on parlait de ça, mais imagine Tom Brady, il y a un lockout cette année. Là. Il se rend à 43 ans?
C'est fini. Moi.
Tu penses?
On a un lockout, là. Ouais, parce que quand la roue va arrêter de tourner, ça va être beaucoup plus dur à repartir.
Ah, c'est sûr qu'à cet âge-là, ça doit être vraiment compliqué. Là. Ouais. Mais il est tellement en forme. Il est tellement discipliné. Il a les meilleurs entraîneurs, les meilleurs nutritionnistes, tout le gars. Honnêtement, à part peut-être Michael Jordan.
Là, les grands sont autour de grands.
Ouais, mais honnêtement, là, il a grand puis grand lui. Là, c'est, on le voit, là, Gronk, là, c'est un méchant athlète, là, mais il a pas l'éthique de travail de Brady. Là.
Oh, pis, ça, c'est sûr.
Peyton Manning, c'est un grand, puis à 40 ans, il tombe en morceaux là, sur le terrain. Là. C'était pénible à regarder. Brady, là, il a 42 ans, le gars, puis on se demande, genre, hey, peux-tu gagner un autre championnat avec une autre équipe, complètement un autre système? Est-ce qu'on a déjà vu ça dans un sport professionnel? Un gars de 42 ans qui arrive, puis ça change la donne au complet? Moi, je pense pas.
Je me rappelle pas avoir vu ça.
T'sais, genre, on regardait Jagger jouer à 50 ans quasiment, j'exagère, il n'y a pas 50 ans, mais tu sais, c'était plus une attraction. Là, c'était
rien lui enlever, il suivait la game, mais c'est pas lui qui faisait la différence.
Non, c'est ça, ou Nick Lidstrom, quand il était rendu à 40, 41, il était bon encore, tu sais, il était très très bon, mais c'était pas. Faut pas exagérer non plus, là, c'était plus Nick Lidstrom de son prime. Hey, le seul gars que je peux penser, c'était Dominique Hachek et Chris Osgood, ils ont joué à 44, 45 ans quasiment. Là. Mais tu sais, c'était pas des game changers.
Non, c'est ça. C'était correct.
C'était des bons gars, mais tu sais, je veux dire, c'était pas Tom Brady. Là. Ça va être à voir. Enfin bref, on a déjà quand même une heure d'enregistrement de fait, Alexis. Je pense qu'on serait mieux de conclure. Compagnie. Ben, ça passe vite, hein. Puis en plus, quand on parle de quelque chose qu'on aime, là.
C'est ça, hein. Sans prétention, deux gars qui discutent.
Si on devrait faire ça plus souvent.
Je pense qu'on
va faire ça plus souvent. Puis honnêtement, si moi je dis ça de même, je lance l'idée, puis à ceux qui vont t'écouter sur ta page, ils me diront qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais moi, Goode, je pense que tu devrais partir ton balado, puis tu devrais m'inviter. Moi, j'ai pas de problème à t'inviter sur mon balado, on fait un hors-série, tu sais, mais entre un hors-série versus ton balado, je pense qu'on pourrait vraiment avoir du fun. Puis tu sais, on pourrait arriver de quoi de vraiment... Ah, je dis ça de même. Moi, je lance ça. Là. Je demande à tes abonnés qu'est-ce qu'ils en pensent. Là. De mettre un peu de pression, peut-être. Là. Ah, tu sais, je dis ça de même.
Tu vois, à explorer là, avec les plusieurs ligues qui reviennent, il va y avoir du sujet en masse.
Ah oui, c'est sûr. Mais pour ceux qui ont bien aimé t'écouter, puis qui pense que il trouve que t'es intéressant. Mais vous êtes comme maudit, le gars du sport n'a pas de bandeau pour l'instant, en tout le moins. Vous pouvez aller écouter Alley-Oop 360. Eux, ils ont leur balado. Très, très bonne équipe. Ils parlent de basketball au Québec. C'est la référence de basket au Québec, selon moi. Très bon site. Des bons gars.
C'est gentil.
Puis moi, je vous les recommande. À l'inverse, moi, par contre, si vous avez bien aimé mes positions sur le sport, je fais aussi des balados sur la politique. Avec des entrevues avec Sylvain Godreau, Frédéric Bastien, des choses comme ça. On a du contenu. Joël Arsenault des Îles-de-la-Madeleine aujourd'hui. Fait que n'hésitez pas. Puis pour ceux qui ont aimé ça, abonnez-vous à nos pages Facebook. Goots, le gars du sport, l'agenda pour nous. Et passez une bonne soirée, les gars. Et les filles.